Merci.
Allô, bonjour docteur.
Ma question est la suivante.
Oui, j'ai une petite, petite question à vous poser.
Voilà, j'ai un problème pour suivre le traitement des champignons.
Priorité santé.
J'ai un ami qui a un problème là.
Claire Aidon.
Bonjour à tous. Hier se déroulait la journée internationale de la drépanocytose. À cette occasion, l'OILD, l'Organisation internationale de lutte contre la drépanocytose, et la mairie de Pantin, en région parisienne, ont organisé une journée de sensibilisation sur cette maladie du sang qui est responsable d'anémie chronique, d'une tendance accrue à certaines infections et de crises douloureuses intenses. La drépanocytose est la maladie génétique la plus répandue au monde. Chaque année, dans le monde, 500 000 nouveau-nés naissent atteints de la drépanocytose. 50% d'entre eux n'atteindront jamais leur cinquième anniversaire. C'est une maladie de l'inégalité sanitaire et sociale. Le professeur Gilles Tchernia est avec nous pour répondre à vos questions. Il est coordinateur du Centre d'information et de dépistage de la drépanocytose de la ville de Paris. Alors pour participer, comme d'habitude, vous nous appelez au 33 1 56 40 18 22. Je répète, 33 1 56 40 18 22. Professeur Gilles Tchernia, bonjour.
Bonjour.
Merci de revenir régulièrement dans Priorité Santé, répondre aux questions des auditeurs qui ont déjà été très nombreux à nous envoyer des emails pour vous poser des questions. Alors je vous propose tout de suite de prendre Nicole qui nous appelle de Cachan, en région parisienne. Nicole, bonjour.
Oui, bonjour madame, bonjour docteur. En fait, je voulais demander à ma fille, elle est hétérozygote, et le papa aussi, mais je voulais savoir, est-ce qu'elle pourrait pratiquer un sport comme le tennis?
Et je voudrais bien aussi que vous posiez votre deuxième question en même temps, si vous le voulez bien.
Et la deuxième question, est-ce qu'elle pourrait se marier avec une personne qui est hétérozygote comme elle ou une personne normale?
Alors, les réponses sont claires. Votre fille, madame, n'est pas drépanocytaire. Elle est, comme vous l'avez dit, hétérozygote, c'est-à-dire potentiellement transmetteur sain.
Ça veut dire qu'elle est porteuse du gène de la drépanocytose.
Elle est porteuse d'un gène. On a deux gènes qui organisent l'hémoglobine. Il y en a un chez elle qui est A, c'est-à-dire qui est le gène de tout le monde, et l'autre qui est S, le gène drépanocytaire. Quand on en a un normal, on n'est pas malade. On n'est pas malade du tout, et ça faut insister.
Donc ça veut dire qu'elle peut faire du sport,
j'imagine. Ça veut dire qu'elle peut faire tous les sports qu'elle veut. Et la deuxième question, si elle a des enfants avec quelqu'un qui est AA, c'est-à-dire qui n'a pas d'hémoglobine drépanocytaire du tout, qui n'a pas de gène du tout, tous les enfants seront normaux, mais certains seront comme elle, transmetteurs. Si en revanche, elle épouse quelqu'un qui est transmetteur,
c'est-à-dire qui est aussi AS comme elle,
hétérozygote, qui a un gène normal, un gène de drépanocytose, le risque est de 1 sur 4 à chaque naissance pour chaque enfant.
C'est ça. Donc il y aurait un risque dans ces cas-là qu'elle ait un enfant drépanocytaire.
Tout à fait. Elle a un risque d'avoir un enfant malade de 1 sur 4, mais seulement si le futur père est porteur d'un gène de la drépanocytose, d'où l'importance de le dépister et d'où l'importance pour tout le monde, enfin pour tout le monde dans les populations à risque, de se faire dépister à temps. Je voudrais corriger un tout petit peu quelque chose que vous avez dit, Claire, au début. Le risque de 50% de décès avant 5 ans, c'est en l'absence de toute infrastructure sanitaire et toute intervention médicale.
Vous avez raison de le rappeler. C'est en l'absence de tout traitement. Quand il y a des traitements, justement, les enfants vivent, et c'est bien pour ça que c'est une maladie de l'inégalité sociale. C'est vrai que c'est important de rappeler que ces 50% sont dus à une non-prise en charge médicale. Nicole, est-ce qu'on a bien répondu à vos questions ou vous voulez encore rajouter quelque chose?
Merci, c'est très gentil. Bonne journée.
Vous voilà rassurée, Nicole. Nicole. Merci de nous avoir appelé. Et on a Eddy Bass qui nous appelle de Pointe-Noire au Congo-Brazzaville. Eddy Bass, bonjour.
Bonjour Claire, bonjour professeur Gilles.
Nous vous écoutons.
Allô?
Oui, vous écoutons.
D'abord, merci de parler de cette question. À la fois, c'est une maladie méconnue dans notre milieu en Afrique et source beaucoup de tension. Donc, j'ai 29 ans, je suis AA et ma femme, elle a 27 ans, elle est SS. Nous avons une autre premier enfant qui a 4 mois déjà. Et j'aimerais avoir des questions sur l'enfant et à la fois aussi la maman. Donc sur l'enfant, j'aimerais savoir si c'est impératif que l'enfant doit hériter du gène S de sa maman et à quel âge nous pouvons le dépister.
Et vous voulez savoir aussi s'il risque justement d'être malade ou pas. Alors, donc première question, on l'a bien compris. Vous êtes AA, c'est-à-dire que vous n'avez aucune trace de drépanocytose. Votre femme est SS, ça veut dire qu'elle est drépanocytaire. Hein. C'est bien ça, professeur Tchernia.
Absolument.
Alors, qu'est-ce qui se passe pour l'enfant déjà?
Alors, de toute façon, il faut rappeler qu'on a deux gènes pour la drépanocytose, enfin pour l'hémoglobine plutôt. Un gène qui vient du père, un gène qui vient de la mère. Hein. Dans le cas qui nous est soumis, le papa est AA, c'est-à-dire que son hémoglobine est totalement normale et qu'il est totalement dépourvu du gène de drépanocytose.
Donc il peut transmettre à son enfant qu'un A. L'enfant prend forcément un gène de son père.
Et la maman est SS, c'est-à-dire qu'elle a deux fois le gène de la drépanocytose, c'est pour ça qu'elle est malade. L'enfant n'a pas le choix, il va prendre un A de son papa, un S de sa maman, et quoi qu'il arrive, il sera transmetteur sain, mais il ne sera pas malade.
C'est ça, donc il est porteur sain, il ne sera pas malade.
Il ne sera pas malade.
Et quand même, à quel âge ça vaut le coup d'être dépisté? Donc il est forcément AS, ça vaut à la
limite. Il est forcément AS. Bon, il vaut mieux le dépister parce que c'est quand même plus commode de le savoir avec certitude, mais il peut pas être autre chose.
Il peut pas être autre chose, donc il ne peut pas être malade, c'est ça que vous rassurez.
Il ne peut pas être
Par
malade.
Par contre, il peut transmettre à l'âge adulte à ses enfants.
Absolument, ça va.
Je crois que vous aviez une autre question, Eddie Bass.
Oui, une autre question. Donc, pendant la grossesse, donc elle a normalement supporté sa grossesse. Elle a accouché à 36 semaines. Donc, ce qui s'est passé à 36 semaines de grossesse, elle a fait une crise vaso-occlusive. Donc, son médecin a décidé de la garder à l'hôpital. Donc, après 6 jours d'hospitalisation, elle a commencé à convulser et après examen, les médecins ont décidé de sortir l'enfant par césarienne. Donc, après l'accouchement, elle a reçu une transfusion post-opératoire. Tout s'est bien passé, mais c'est après que rien ne fonctionnait au niveau de ses organes. Donc, elle souffrait d'une insuffisance rénale aiguë, les poumons ne fonctionnaient plus. Et elle est restée deux jours en sous-respiration artificielle.
Et comment va-t-elle aujourd'hui?
Oui, pas aujourd'hui, ça va parce que elle avait juste des problèmes de tension, mais c'est normalisé, ça va aujourd'hui. Donc mes questions sont les suivantes. Je voudrais savoir si à la longue on peut, cela est dit d'abord. Et si à la longue, on peut pouvoir avoir d'autres enfants, quoi.
Alors, professeur Gilles Tchernia, est-ce que ce genre de crise aiguë au moment de la grossesse et de l'accouchement sont classiques justement pour des drépanocytaires?
Absolument. Il faut rappeler qu'il y a 20 ans ou 30 ans, on déconseillait aux femmes drépanocytaires d'être enceintes. Donc, ce qui s'est passé, quelque chose qui peut arriver, les grossesses chez les femmes drépanocytaires sont toujours des grossesses, comme on dit, à haut risque, qui doivent être prises en charge très tôt et par une équipe multidisciplinaire, à la fois des spécialistes de drépanocytose et des obstétriciens qui comprennent bien le problème. Certaines équipes prônent une transfusion régulière à partir du quatrième mois à peu près.
Pour justement éviter les...
Pour avoir des globules rouges normaux qui circulent. Je crois qu'on peut dire que il est possible pour une femme drépanocytaire d'avoir une ou plusieurs grossesses. Il faut qu'elle soit très bien suivie et il faut faire très attention à tout ce qui peut arriver pendant la grossesse.
C'est ça, mais c'est possible si on est très bien suivi, c'est ça la condition.
Absolument.
En tout cas, Eddie Bass, merci de nous avoir appelé et puis bon courage à vous et à votre épouse. On a Fatima qui nous appelle de Bamako au Mali. Fatima, bonjour.
Oui, bonjour.
Nous vous écoutons.
Bon, mon problème, c'est drépanocytaire.
Alors, excusez-moi, Fatima, je vais vous interrompre. Fatima, écoutez-moi, je vais vous interrompre deux secondes parce que vous avez votre poste de radio qui est allumé derrière, parce qu'on l'entend en écho. Donc, vous allez l'éteindre, vous allez tout entendre dans le téléphone de façon très classique. Pour l'instant, en fait, vous avez la radio dans le téléphone. Donc, vous éteignez votre radio. C'est bon, Fatima?
D'accord.
Elle est éteinte? Non, elle n'est pas éteinte. Oui. Est-ce que je l'entends en écho derrière?
Oui.
C'est éteint, c'est bon. Alors, allez-y, on vous écoute.
Donc, je suis drépanocytaire depuis l'âge de 6 ans, SS. Bon, je vis avec depuis 40 ans, moi, mais depuis 2005 à 2008, je fais des crises fréquentes. 2006, j'ai été hospitalisée pendant 4 fois l'année, donc.
Et vous voudriez
Janvier 2008 à juin, donc, j'ai fait 3 crises aussi, donc, les crises fréquentes qui m'inquiètent. Donc, vrai que mon âge, j'ai 46 ans.
Et vous voudriez savoir comment éviter ces crises? C'est ça votre souci pour l'instant, Fatima?
C'est tout pour ne pas... Bon, avant, je pouvais rester 2 ans sans faire de crise, mais depuis 2005, je fais des crises fréquentes.
Alors d'abord, professeur Gilles Tchernia, est-ce qu'effectivement les crises peuvent augmenter avec l'âge ?
Avec l'âge, non, mais par période de la vie, oui. Et je crois qu'il est très important dans ce cas-là de savoir s'il n'y a pas ce qu'on appelle une épine irritative, c'est-à-dire une infection chronique, comme une infection de la vésicule, par exemple, quelque chose qui peut provoquer des crises plus fréquentes.
Redéclencher des crises. En tout cas, ce qui est intéressant dans le fait de voir, c'est que Fatima, elle a 46 ans, donc c'est bien la preuve qu'on peut vivre longtemps avec une prise en charge.
Et je crois qu'il faut rappeler aussi les précautions indispensables pour un drépanocytaire, d'hygiène au quotidien, de discipline au quotidien, qui sont aussi importante que le bilan médical ou
alors, quelles sont ces règles d'hygiène ?
Les règles d'hygiène, c'est boire beaucoup, éviter le chaud, le froid, les vêtements serrés, avoir une alimentation équilibrée, si possible, avoir des vaccins spécifiques et prendre des antibiotiques facilement en cas d'infection. Alors, on est conscient que tout ça, dans un pays comme le Mali, coûte cher, puisqu'il n'y a pas de remboursement. Mais en plus, je crois qu'il faut dire qu'à Bamako, on a la chance d'avoir une équipe concerné par la drépanocytose et bientôt l'ouverture d'un centre de référence de traitement. Donc je pense que Fatima est en rapport avec elle.
C'est ça. Et donc ce centre de traitement, ce centre de référence devrait ouvrir ses portes en janvier 2009, c'est ça ?
Début 2009.
Début
oui.
2009. Fatima, est-ce que vous suivez tous ces conseils, justement, d'hygiène de vie ?
Oui, oui.
Oui. Mais ça marche pas toujours, c'est ça le problème, professeur Tchernia.
C'est le problème, bien sûr. Il n'y a rien qui marche toujours ici.
Bon courage à vous. En tout cas, on imagine que vous êtes en contact avec tous ces médecins à Bamako, spécialistes de la drépanocytose. Bon courage à vous, Fatima.
Priorité santé, Claire Hédon.
Aujourd'hui, le professeur Gilles Tchernia est avec nous pour répondre aux questions que vous vous posez sur la drépanocytose. Et on a Alain qui nous appelle de Vitry, en région parisienne. Alain, bonjour.
Allô, bonjour Claire Hédon.
Bonjour, nous vous écoutons.
Bonjour Claire Hédon, bonjour professeur. Je suis drépanocytaire au Mozigote et je suis aussi étudiant en médecine au Kremlin-Bicêtre. Et je vois régulièrement des malades drépanocytaires dans le cadre associatif ou dans le cadre de mes études et qui sont en France depuis plusieurs années. Et ces gens, certains d'entre eux, ont leur titre de séjour renouvelé pour des raisons de santé depuis plusieurs années. Et là, depuis l'année dernière, depuis le 2007, ils se voient attribuer de nombreux refus. Donc, ce que je voulais vous demander, parce que dans plusieurs cas, ça conduit à des situations vraiment dramatiques... qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider, professeur ?
Alors, professeur Tchernia, c'est une question importante sur laquelle vous vous êtes penché, vous. C'est qu'effectivement, il existe un droit au séjour pour raison de santé. La drépanocytose faisait jusqu'à maintenant partie des cas qui étaient recensés pour avoir droit au séjour pour cette maladie-là. Depuis quelque temps, il n'y a pas de renouvellement de carte de séjour ?
Alors, je crois qu'il faut dire plusieurs choses. La première, c'est qu'on ne parle pas ici des demandes d'immigration pour raisons sanitaires. On parle des malades qui sont déjà en France depuis plusieurs années.
C'est important de le préciser.
Et qui avaient tous les ans leur titre de séjour renouvelé pour raisons sanitaires. Je crois qu'il faut dire qu'il n'y a pas de diagnostic qui donne ce droit. C'est toujours au cas par cas et ça a toujours été au cas par cas. Néanmoins, jusqu'à 2007, les préfectures faisaient confiance aux médecins et qu'un certificat décrivant la gravité de la maladie sans donner le diagnostic était transmis au préfet et le diagnostic était transmis au médecin inspecteur de la santé publique. Celui-ci donnait son avis qui, la plupart du temps, était suivi par le préfet. C'est quelque chose qui est... C'est un circuit qui a été jeté à bas, d'abord parce que le médecin inspecteur n'est plus cru dans un certain nombre de cas, c'est-à-dire qu'on ne suit plus ses avis, et deuxièmement parce que le préfet prend ses décisions en fonction du diagnostic qui lui est donné et en fonction des fiches pays qui décrivent l'infrastructure sanitaire des pays et qui donne ou non l'existence d'un spécialiste de la drépanocytose. Alors je crois qu'il faut dire que tout ceci va contre la déontologie, d'abord parce qu'il y a quelqu'un qui est administratif et qui n'a pas à connaître le secret médical, que ceci va contre l'éthique, parce que voilà des gens qu'on a pris en charge pendant plusieurs années, à qui on a renouvelé le titre de séjour, qui sont insérés dans la société française, qui très souvent ont un contrat à durée indéterminée, qui ont cotisé la sécurité sociale, qui ont payé leurs impôts, et puis tout d'un coup on leur dit repartez. Et repartez où ? C'est très gentil de dire qu'il y a un spécialistes de la drépanocytose. Et c'est vrai qu'il y a d'éminents spécialistes de la drépanocytose maintenant en Afrique subsaharienne. Mais il faut voir un spécialiste pour combien de malades, combien d'habitants. Il faut voir la distance entre l'endroit d'accueil, le village d'origine ou la ville d'origine, et l'endroit où est le spécialiste.
Et le coût des soins.
Et il faut voir surtout le coût des soins et le problème de l'accès aux soins, de l'accès financier aux soins, puisqu'on rappelle que la drépanocytose en France est une maladie qui donne droit à un remboursement intégral.
Professeur Tchernia, vous avez fait partie des médecins qui ont organisé une conférence de presse. On en avait parlé dans Priorité Santé avec entre autres le docteur Arnaud Weiss. Et vous étiez parti justement de quelques cas, une femme qui a le diabète, une personne drépanocytaire. Que s'est-il passé pour ces personnes que vous aviez mis en avant lors de cette conférence?
Alors c'est tout à fait intéressant puisque nous avons appris que la dame diabétique, juste au début de la conférence de presse, qu'elle avait été régularisée la veille, et Awa Keita, la maman d'enfant drépanocytaire qui a parlé très peu de temps, mais qui a parlé, a été régularisée dans les jours suivants.
Donc en fait, quand Alain demande qu'est-ce qu'on peut faire dans ces cas-là, c'est quoi ces médiatiques?
Faire une conférence de presse par malade, c'est pas très pratique et on préférerait qu'il y ait une attitude un peu plus organisée, un peu plus cohérente et une attitude plus nette vis-à-vis des médecins et une confiance dans les médecins, fussent-ils agréés ou non.
Alain, merci en tout cas beaucoup pour votre question et bon courage pour vos études de médecine. Et on a Freddy qui nous appelle de Kinshasa en République démocratique du Congo. Freddy, bonjour.
Bonjour.
Nous vous écoutons.
Oh, je suis drépanocytaire homozygote, docteur. Et j'ai 41 ans. Bon, je disais que j'ai eu la chance de passer d'aller jusqu'aux études universitaires. Mais quand je vois autour de moi, quand je vois mes compatriotes drépanocytaires, il y en a qui s'arrêtent très tôt d'aller scolarité à cause de précarité de santé. Mais je me demande, en fait, je ne vois pas ou je ne vois pas les pistes qu'ils peuvent suivre ou si vous avez un conseil, les filières qu'ils peuvent suivre pour qu'ils fassent de longues études étant donné leur situation de santé. Parce qu'en fait, c'est trop éprouvant quand tu suis d'autres filières en fait traditionnelles.
Alors Freddy, si vous permettez, je vais juste un peu, je vais répéter. Freddy, si vous permettez, je vais répéter votre question parce que la ligne n'est pas très bonne sur la République démocratique du Congo. Vous êtes donc drépanocytaire SS. Vous avez eu la chance de faire des études, mais vous demandez un peu qu'est-ce qu'on peut faire pour ceux qui ont du mal à faire des études. Est-ce qu'on peut adapter les programmes parce qu'il y a des gens qui sont trop fatigués justement pour suivre des études classiques. Professeur Tchernia, c'est une vraie question ça.
C'est une vraie question à laquelle on répond que partiellement en France et c'est question qui ne peut être résolue que faculté par faculté et malade par malade. En général, en France, on donne des facilités sous forme d'abord d'un temps supplémentaire aux examens, qui vaut pour les drépanocytaires, pour les gens fatigués, pour les étudiants fatigués ou pour les handicapés visuels, par exemple. Quand on peut, l'organisation de sessions spéciales, si quelqu'un était malade au moment d'un examen, etc. Mais il n'y a pas de loi, il n'y a pas de filière définie.
Mais on devrait essayer de prévoir quelque chose pour ces personnes-là.
On devrait essayer, et je crois que dans ces cas-là, il faut s'adresser au doyen et au recteur et exposer son problème en amont, je dirais avant les échecs et pas en aval.
Freddy, merci beaucoup pour votre question. Et on a Soso qui nous appelle de Ségou au Mali. Soso, bonjour, il ne nous reste pas très longtemps, mais vous pouvez rapidement poser
bonjour,
votre Claire. Question.
Comment allez-vous?
Bien, et vous?
Ça va très bien, merci.
Allez-y, on n'a que quelques secondes.
D'accord, ici en Afrique, je pense que le principal problème, c'est le diagnostic. En fait, les symptômes de cette maladie ressemblent beaucoup au symptôme du rhumatisme articulaire aigu. Donc, ce qui fait que poser le diagnostic, c'est ce qui pose des difficultés. Alors, ma question est la suivante. Est-ce que le retard actuel pour la prise en charge et pour la recherche n'est-il pas dû au fait que c'est... Nos amis, les Européens, ne sont pas atteints de cette maladie.
Professeur Tchernia, ça c'est une question qui revient souvent. On sait que c'est une maladie qui touche plutôt la population noire, et particulièrement en Afrique et les Noirs américains. Est-ce que c'est pour ça que la recherche n'avance pas plus vite?
Non, je crois qu'on peut répondre non. D'abord, il faut répéter que ce n'est pas une maladie du Noir. C'est une maladie qui est plus fréquente chez les habitants de l'Afrique, mais elle se voit aussi en Inde et même en Europe du Sud. Je crois que la réponse, elle est que la recherche a lieu, et qu'elle va relativement vite. Elle va bien sûr pas du tout assez vite pour les malades et pour l'espoir des malades, mais on soigne pas du tout un drépanocytaire en 2008 comme on l'aurait soigné en 98 ou en 88. Et il y a actuellement en chantier plusieurs médicaments qui sont intéressants. Donc je crois qu'on peut pas dire ça. Il faut quand même rappeler que la recherche sur la drépanocytose et la recherche sur les traitements est née principalement aux États-Unis
et
grâce au droit de vote de la population afro-américaine.
Et il faut qu'elle progrès, c'est que ces traitements soient accessibles dans les pays du Sud à un coût raisonnable. J'imagine que c'est toujours la question. Professeur Tchernia, merci. Mardi, nous parlerons de la santé dentaire. Vous pouvez bien sûr dès maintenant poser vos questions à priorité.santé@rfi.fr. Bonne fin de semaine à tous et à lundi.